Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. On enchaîne avec cette formule d'émission qui nous permet de revenir sur des séries en cours qu'on suit régulièrement et qu'on apprécie beaucoup. La semaine dernière, on vous a fait le topo avec les résultats du sondage. Cette semaine, il nous reste donc à traiter de Tsugai, de Journey Beyond Heaven et de Full Night. Et maintenant, en quelques mots, quelle série on pourrait voir dans les émissions, dans ces émissions l'année prochaine? Moi, je pense d'emblée à Kagurabachi. Ça me paraît être le client idéal pour ce type d'émission. On commence à avoir une belle tomaison. Je pense aussi à The Summer Hikaru Died. Et vous, vous pensez à quoi?
Moi, à titre personnel, mais c'est un peu aussi pour m'y remettre, c'est Chujinix chez Glénat, parce que j'avais bien kiffé le début, mais j'ai pas trop poursuivi, et du coup, il y a quand même déjà bien 7 tomes, 7-8 tomes qui sont
sortis. On a eu des demandes, Robin.
Donc,
sur les réseaux, des gens nous ont dit « Mais ouais, Chujinix !»
Les gens ont demandé.
Ça part pas mal en couille, hein, Chujinix, quand même. Hein. Faut s'accrocher, mais en vrai, why not, pourquoi pas lire la suite. Moi, de base, comme ça, je dirais Kindergarten Wars, encore. Je sais, mais parce que vraiment, je trouve que le développement de cette série est vraiment super. Et sinon, en petit choix perso de mon cœur, c'est... je sais même plus comment on le dit en français, du coup c'est Dragon Quest, mais le spin-off de Davan and the Great Balls
and
of
the
Fire,
Lord of the Fire.
et le spin-off Avan, c'est le meilleur.
Et pour le coup, cette série, je suis à jour et vraiment je trouve que c'est l'exemple tellement parfait du bon spin-off que j'ai vraiment envie d'en parler, même si je suis pas sûr que ça arrivera, quoi.
Rendez-vous l'année prochaine. En attendant, nos mangas à suivre, c'est maintenant dans la cinquième de couve.
On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Oh, les bâtards.
Vous êtes en train d'écouter la cinquième de couvre, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas sur la longueur. Salut tout le monde, salut Cagnard, salut Robin.
Salut.
Content de pouvoir enfin reparler de Tsugai.
Bah ouais, franchement, avec plaisir. Mais même, en fait, les trois séries, moi, je suis assez content.
Ouais, t'es très chaud sur les trois.
Bah oui, moi, c'est, pour le coup, c'est mon émission, là.
Si vous nous découvrez maintenant, merci à tous d'être là, d'être à l'écoute de la cinquième de couvre, le podcast Manga Hebdo, depuis maintenant beaucoup trop d'années. Donc si ce sujet vous plaît, scrollez un peu, regardez, il y aura forcément une émission pour vous, même sans aller trop loin. Puis si vous aimez ce qu'on fait, laissez un commentaire, laissez même des commentaires sur les vieilles émissions. Alors des fois on est un peu décroché, on se souvient plus du tout de ce qu'on a pu dire il y a 4 ans, donc c'est compliqué de vous répondre, mais on voit les commentaires. Mettez une note, partagez l'épisode, on veut savoir quel manga vous avez envie de suivre avec intensité en ce moment. Aujourd'hui donc, on a 3 mangas à passer dans l'émission, et on pourrait évidemment en faire une heure sur chacun si ça ne donnait qu'à nous, mais surtout attention, on va spoiler les 3 mangas.
Ça, oui, c'est très, très vraiment important. Le concept, quoi.
On va même pas vous refaire le pitch. Non, on spoil, c'est le concept. On est à jour, on a envie de parler des 9 tomes, enfin du tome 9 de Tsugai. On a envie de parler des tomes 9 et 10 de Full Night. On a envie de parler des tomes 10, 11, 12 de Journey Beyond Heaven. Voilà, on va spoiler. Donc, vous êtes prévenus et
ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens qui vont l'écouter sans. Ça me fascine. Hein.
Alors, j'ai envie de lui passer le bonjour. Ben Breval, qui est sur notre Discord.
Qu'est-ce qu'il a fait encore, celui-là?
Eh bien, écoute, on lui a donné envie de replonger dans Akane Banashi à la fin de l'émission semaine dernière. Et son commentaire m'a fait super plaisir. Voilà, c'est juste ça. Il a écouté,
quoi,
il s'est fait spoiler. Genre, juste dire que nous entendre spoiler et puis parler de la suite de Akane Banashi, ça lui a donné envie de relire.
Ah, mais c'est ça, c'est un puriste du spoil.
Et donc moi ça m'a fait plaisir de savoir que bien qu'on l'ait spoilé, il a envie de plonger dedans. Voilà, on lui passe le bonjour.
C'est un mec de la team de Robin au final.
Tout à fait, exactement. Et on passe le bonjour à vous tous, hein, qui nous laissez des messages assez régulièrement sur les réseaux. On commence cette émission avec Tsugai là pendant 20 minutes. Les 20 minutes qui vont suivre après Tsugai, ça sera pour Full Night, et puis les 20 dernières minutes de l'émission, ça sera pour Journey Beyond Heaven. Voilà, vous avez le chapitrage dans les commentaires, vous avez le chapitrage sur le blog, la5ème de couve.fr, et puis en général sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. C'est parti, Robin, parlons de Tsugai. 8 tomes, c'est aux éditions Kurokawa, et le premier truc que j'ai envie de te dire sur Tsugai, maintenant que je suis au tome 8, on est d'accord que il est louche, le mangaka de la famille Kagemori.
Mais ils sont tous louches, c'est vraiment...
Ouais, mais le man, il est gentil, il a l'air de n'avoir aucune ambition, il a l'air de n'avoir aucun défaut. Pour moi, tout ça, c'est beaucoup trop louche.
Bah, en fait, j'aime bien parce que c'est un titre qui repose beaucoup sur ses faux semblants, parce qu'il y a un autre membre de la famille Kagemori qui nous avait été présenté comme louche et qui finalement l'est pas tellement.
Si, moi, enfin,
il l'est, mais
aussi,
il l'est, mais finalement, il est pas méchant, quoi. Enfin, il est
le
moins,
mec au papillon, quoi.
Ouais, voilà, moins vicieux que ce qu'on pouvait, ce dont on pouvait s'attendre, pardon. Et c'est vrai que le mangaka, en plus, je me souviens, il y a une scène qui est assez marrante où justement, il est en la mise en scène, c'est de nuit, avec un écran d'ordinateur qui l'éclaire.
J'adore ce passage.
Et tu sais, c'est vraiment la mise en scène typique de la scène du complot, tu vois, où vraiment il est en train de discuter d'une réunion hyper importante avec quelqu'un, tu sais pas qui c'est et tout, et les dialogues sont suffisamment flous pour que tu aies l'impression qu'il vient de parler de la situation qu'il vient d'avoir, et donc qu'il fait passer pour un gros traître. Et en fait, tu te rends compte, c'est juste une réunion avec sa responsable éditoriale, et ils sont en train de parler du dernier chapitre du manga qu'il est en train de faire. Et du coup, bah, ça évidemment, ça crée une rupture, mais ça joue sur ce côté. En fait, c'est un manga où les faux-semblants sont partout et on sait jamais vraiment à qui se fier, quoi.
Toi qui es éditeur, tu parles comme ça de manière louche avec tes éditeurs ou pas?
Bah déjà, c'est chelou s'ils sont dans le noir quand t'es en visio. Normalement, non, je vois quand même...
les gens mettent la lumière.
Je les appelle deux jours déjà.
Tu leur imposes pas d'éteindre la lumière
Non, ça se passe plutôt. On est assez concret finalement. Ou alors des fois ça part dans des discussions très longues sur des sujets qu'on n'avait pas prévus, mais c'est pas de phrases louches.
Non, mais c'est vrai qu'ils ont tous l'air louches, mais voilà. Le mangaka a l'air tellement gentil que je peux pas m'empêcher de me dire que ça, c'est un truc qu'on nous prépare pour peut-être dans 10 tomes. Hein,
ouais.
Mais qu'à un moment donné, il y a un truc, un tips, quelque chose autour de ce personnage, j'arrive pas à me l'enlever de la tête.
Ouais, après c'est... Moi je sais pas, parce qu'en même temps, il a son rôle de... C'est l'aîné de la famille, et en même temps, il est censé avoir une responsabilité que tu sens il veut pas tellement avoir. Et déjà, c'est un type de personnage, tu vois, qui existe et qui déjà a des promesses, tu vois, derrière tout ça. Donc,
ouais, mais comme elle arrive à détourner tous les stéréotypes.
Ouais, c'est vrai.
Depuis le début.
Et puis c'est vrai qu'il a un pouvoir qui peut lui permettre de dissimuler des trucs aussi. Donc
le pouvoir du mangaka. Voilà. Quoi.
Le pouvoir de l'ancrage.
Le pouvoir de l'ancrage.
De l'effaceur et de l'ancrage.
Ouais. C'est trop bien. du coup, en parlant de gens louches, il y a un autre truc moi qui me plaît mais me ravit au moment où ça arrive dans ce manga, c'est les apartés des discussions entre les jumeaux, entre Yuru et sa sœur. À chaque fois que ça arrive, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Tu sais que tu vas avoir une révélation, que tu vas avoir de l'intensité, que tu vas avoir quelque chose qui va te surprendre ou en tout cas faire avancer l'histoire. Je sais pas comment tu le sens.
Bah, en plus, c'est vrai que c'est des situations qui arrivent pas si fréquemment que ça. C'est-à-dire que
on en a vraiment deux, hein, seulement.
Effectivement, l'histoire elle est quand même centrée sur ces deux personnages et on les voit chacun quand même beaucoup. Et on sait qu'ils sont liés, tu vois, c'est-à-dire que en fait la galaxie de personnages qui gravitent autour d'eux, on les voit sans arrêt interagir entre eux, ce qui fait que indirectement t'as l'impression que Yoru et Asa ils se voient souvent, mais en fait ils se voient pas si souvent que ça.
Non, vraiment, j'ai eu l'impression de, si je reprenais les 9 premiers tomes, je crois qu'ils se sont vraiment, qu'ils ont eu une conversation construite, on va dire, deux fois.
Oui, et puis il y a la fois où ils sont de mémoire dans le Tsugai de Asa qui est isolé qui isole du reste du monde, donc du coup ils ont une vraie conversation en privé, quoi, littéralement. Mais ouais, carrément. Et en plus, moi ce que j'aime bien, c'est que ça joue effectivement sur des registres, on pourrait dire dramatiques, ou en tout cas très fort dramaturgiquement, comme tu dis, c'est des moments un peu clés et des moments où l'histoire avance, mais c'est aussi des moments où il y a de la légèreté, tu vois. C'est, il y a des running gags, il y a une relation entre les deux qui est amusante, parce que on a Yoru qui lui connaît pas trop le monde moderne, donc il est pas très à l'aise avec je sais pas comment dire, la manière de se comporter dans un, dans une société actuelle, et Asa qui à l'inverse elle connaît bien ce monde là et elle, elle, elle est à fond sur le fait que Yoru ce soit son frère et qu'il faut que leur relation elle soit, elle bah, soit elle positive
un,
et
elle a un super brother complexe
et voilà, et du coup elle est fan de son frère, en plus elle le trouve trop cool parce qu'il est, il est un peu mystérieux et ténébreux et avec son, justement son côté un peu bah voilà, brut, et elle veut tout le temps le prendre en photo, elle veut tout le temps se prendre en photo avec lui et tout, et ça c'est vraiment des, un, le type de running gag qui marche super bien.
Ouais, mais tu vois, ça, ça arrive justement quand il ne se voit pas vraiment. Enfin, ça arrive plus souvent quand il ne se voit pas.
Oui.
C'est running gag que quand il se voit, où ça fait vraiment.
Ouais, en fait, ça arrive quand. Ça peut arriver quand il se voit, mais c'est surtout que c'est vrai que c'est un élément pour définir un peu à ça quand elle est toute seule et qu'elle regarde les photos et tout. Et aussi quand il se voit de loin, tu vois. Parce qu'il y a, aussi des scènes quand même où ils se parlent pas, mais ils se toisent parce qu'ils sont chacun dans un, d'un côté de la scène, quoi. Et effectivement, et là, il y a Asa qui fait ah, oh, mais il est trop bien, il est vraiment trop stylé, mon frère, et tout. Donc vraiment, il y a effectivement. Ces petits éléments comiques qui rajoutent aussi à la dynamique du duo qui marche très bien.
Attends, on en reparlera après, mais le manga ne bouge pas. Hein. Oui. Thomas, on a quitté le village, on a fait bah voilà, on est en ville, bah on reste dans la ville.
On reste plus ou moins tout le temps même dans la même résidence.
C'est clair.
C'est assez...
Et pour revenir sur Yoru, alors oui, elle l'idolâtre, surtout parce qu'elle le connaît pas, mais en fait, Yoru, quand tu reprends la typologie de personnage dans le monde du manga, dans le monde du shonen manga, d'aventure, d'action, etc., il est giga dark. Parce que il a pas de problème pour... Il a déjà tué, déjà.
Oui.
Étape 1, quand il était enfant. Étape 2, bah, ça lui pose pas de problème réellement de recommencer. Il peut blesser les gens sans aucune pitié. Non, vraiment, c'est vraiment le garçon de la forêt qu'on met dans notre réalité, quoi.
Ouais, ouais. Et puis, ce qui est marrant, c'est que c'est un truc qui est amené progressivement. C'est pas un truc que tu ressens dès le début. Je trouve qu'au début, il nous est un peu présenté comme un héros naïf, un peu classique de shonen, tu vois, qui veut faire des choses bien pour son village et tout, machin. Et en fait, c'est petit à petit où tu comprends qu'en fait, le cadre dur dans lequel il a vécu, parce qu'au final, il a quand même grandi dans un village plus ou moins
médiéval,
quoi.
Ouais.
Donc forcément, c'est des conditions de vie qui n'ont rien à voir avec le monde moderne. Et bah du coup, en fait, quand il arrive dans le monde moderne, il se retrouve quand même dans un monde où il comprend rien. Il se retrouve avec plein de gens qui maîtrisent les codes de ce monde, alors que lui, il les a pas. Mais il n'est pas effrayé. Et c'est l'inverse qui se passe. C'est eux, parfois, qui sont effrayés par lui parce qu'ils se disent, mais en fait, il a un instinct de ouf. T'es jamais... Enfin, tu vois, il y a plein de scènes où des meneurs de Tsugai, on va dire, capés, quoi, ils se retrouvent vraiment en difficulté face à lui. Et pas face à ces Tsugai qui sont très forts aussi à Yoru, mais vraiment face à lui, quoi.
Mais il a un charisme, une aura, un truc...
Ouais.
Qui est représenté, en tout cas, dans le manga, qui fait qu'il est craint. Et c'est assez... Je sais pas, je trouve ça assez détonnant dans cette typologie de manga, et j'ai presque envie de l'opposer à Ichi dans Ichi the Witch.
Oui, bah en fait c'est vrai que, alors moi j'ai pas beaucoup lu Ichi the Witch, mais
même sur le tome 1, si tu vois que les deux sont des chasseurs,
mais carrément
ce truc un peu de vouloir attraper leur proie.
Ouais, assez impitoyable, quoi. En fait, ils sont... C'est vrai que je me suis fait exactement la même réflexion, que finalement, ils se ressemblaient assez comme héros. C'est qu'ils ont un côté pur, mais dans le sens menaçant, quoi. Tu vois, ils sont vraiment impitoyables et prêts à tout pour leurs objectifs, parce que c'est des chasseurs. Et du coup, je trouve ça aussi assez cocasse que Yoru ressemble autant à Okai, le lieutenant Okai de Fullmetal Alchemist, en version homme, quoi. Parce que c'est vraiment le même type de perso. Okai, c'est vraiment une super militaire, super experte dans ce qu'elle fait. Elle est impitoyable, elle est hyper charismatique et tout. Et vraiment, c'est espèce de miroir masculin de ce personnage-là, quoi.
Et est-ce que toi aussi tu trouves comme moi, ou je suis seul dans ce cas, que les pouvoirs de tous les personnages, sauf Yoru, sont super cheatés.
Bah Yoru, on sait pas parce qu'il va, Yoru, il va avoir son pouvoir.
Il aura l'union,
mais on sait pas trop ce que c'est, donc on se doute que ça va être fort. Mais
le pouvoir de Asa, il est over cheaté. Le pouvoir, moi, du vieux Kagemori, je t'en parle même
oui,
pas.
Oui, bah lui, il a tous les pouvoirs entre guillemets, quoi. Donc
il a tous les Tsugai. Le pouvoir des, bah, ils ont tous des pouvoirs, je trouve, super super cheatés. Ils sont déjà très loin.
Ouais, bah en fait c'est que, en fait c'est ça qui est bien aussi dans ce titre, c'est que je trouve que le fait d'avoir décorrélé les pouvoirs qui sont en fait les Tsugai qui accompagnent les meneurs, des meneurs en eux-mêmes, c'est-à-dire que les Tsugai ils sont liés à leurs meneurs, mais ils ont aussi une existence indépendante, ils ont un peu leur personnalité, leur vie propre. Il y a même des Tsugai qui obéissent pas à leur maître. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté dissocié. Fait que quand tu vois un nouveau personnage, en général, tu te poses à la fois la question de ce que ces Tsugai sont capables de faire, mais lui aussi ce qu'il est capable de faire. Et tu vois, typiquement, un mec comme Yoru, il a des Tsugai super forts, les gardiens cardinaux qui sont des.
Mais on sait pas trop ce qu'ils font.
Des espèces
si
de super moines
combattants.
Ouais, c'est des super moines combattants qui ont l'air d'avoir une espèce de forme animale quand il s'énerve et qu'il les rend encore plus fort. Mais Yoru lui-même est très fort parce qu'il a des compétences de chasse, de tracker, il est hyper agile, il est...
Mais tu prends la lambda là, de la famille Kagemori qui a son tanuki qui peut absorber, envelopper les gens dans ses couilles, ça marche. C'est un super pouvoir parce que ça te bloque tout le monde, quoi.
Ouais. Mais après, c'est moi, c'est aussi ça que j'aime bien, c'est ce côté.
Ça m'a fait penser à un film de Ghibli. je sais pas si tu te souviens.
Bah les couilles de Tanuki, ça me fait penser à Shaman King aussi, moi.
Ah bah oui, évidemment. Moi, c'est un truc traditionnel. Ouais, c'est pas.
Oui, bien sûr.
C'est pas dans
un hommage spécifique, mais non. Mais en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que il y a aussi ce truc de. Quand tu vas découvrir un nouveau perso et les Tsugai qui sont avec lui, tu vas te poser la question de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, parce que des fois, les Tsugai, ils révèlent pas leur pouvoir tout de suite, même si on découvre effectivement qu'après, ils sont cheatés, alors plus ou moins, parce qu'en fait, c'est aussi un peu comme dans Hunter, c'est que les Tsugai sont cheatés pour des applications précises, tu vois. Tous les Tsugai, ils sont pas des Tsugai de combat.
Comme ils sont tous super cheatés, de toute façon, c'est nivelé, quoi.
Mais ils ont tous. Enfin, moi, je trouve qu'en général, la typologie de pouvoir qu'ils ont, ça s'approche quand même beaucoup de certains trucs de naine, quoi, tu vois. Genre vraiment, le mec qui peut attraper un Tsugai et du coup avoir la mémoire de tout ce que ce Tsugai sait, le pouvoir, on disait, du mangaka qui peut effacer, redessiner par-dessus. Mais ça, tu vois, c'est des pouvoirs qui sont pas spécifiquement utiles pour se battre, mais par contre, ils sont très utiles pour selon l'utilisation que tu veux.
Le vieux Kagemori, quand il commence à mettre les espèces d'énormes scolopendres comme des points américains, tu dis, ok, t'es devenu Iron Man, mon gars, quoi.
Oui, puis en plus, c'est marrant, c'est que comme dans le monde réel, les gens ne voient pas les Tsugai, t'as des scènes des fois où tu vois juste un petit vieux au milieu de la cour et il y a tout qui explose autour de lui, tu comprends pas ce qui se passe.
J'avoue que toute la phase avec Yvan, on en reparlera après de Yvan, mais où à chaque fois t'avais les mecs de la sécu qui étaient des lambda qui fait bon. Bah, j'ai l'impression qu'il y a un tas de cadavres là, je comprends pas ce qui se passe, enfin, ça te met un peu de réel dedans et ça te remet en perspective.
Carrément.
Ce qui se passe dans le manga par rapport à une réalité.
Complètement, et en plus je trouve que le fait que ce soit le concept du manga, c'est quand même que les Tsugai ils fonctionnent toujours par deux, ça décuple aussi ce plaisir que t'as de découvrir des nouveaux personnages, découvrir des nouveaux pouvoirs, découvrir des designs de créatures qui des fois sont des... Alors souvent, tu peux avoir deux types de Tsugai, t'as les Tsugai où ils se ressemblent beaucoup les deux, et t'as les Tsugai où ils ont rien à voir l'un et l'autre, et du coup là tu commences à imaginer, tu te dis tiens, qu'est-ce que ça va pouvoir être leur faculté, parce que forcément c'est une faculté qui va se répondre et comment ça va fonctionner, etc. Et typiquement les gardiens cardinaux, pour l'instant on sait qu'ils sont deux, on sait qu'ils se battent, mais on sait pas la synergie des deux, en fait.
Non, pas encore. Mais ça me fait penser à un truc, ils sont deux et on est déjà avec genre 40 personnages plus deux Tsugai, on est déjà à 120 noms personnage à retenir, c'est un truc de malade. On est au tome 9. Hein.
Oui, non, mais franchement, moi, je trouve ça impressionnant parce que c'était déjà le cas dans Full Metal. Il y a beaucoup de personnages dans ce manga. Mais là, c'est vrai que d'en avoir autant qui arrivent en même temps avec ce côté justement les tsugai qui vont avec. Donc déjà, c'est-à-dire que quand t'as un nouveau perso, t'as encore un perso en plus, mais t'en as encore un troisième puisque les tsugai fonctionnent par deux. Bah c'est vrai que ça fait vraiment très foisonnant et moi je trouve ça hallucinant de voir à quel point elle arrive, l'autrice, à rendre le récit fluide malgré cette densité quand même de personnages et de situations. Bon, le revers de la médaille, peut-être qu'on en parlera après, c'est que ça avance pas très vite malheureusement l'histoire.
Mais il se passe plein de trucs.
Ouais.
Mais c'est vrai que l'histoire n'avance pas en termes d'unité de lieu. L'histoire ne se déplace pas.
Bah non, parce qu'en fait, finalement, l'enjeu de l'histoire, c'est pas un endroit, c'est vraiment les jumeaux et comment chacun va exploiter ou non le potentiel de ces jumeaux.
Mais
quoi.
Tu vois, c'est marrant parce qu'on commence justement dans le village de Yuru, enfin dans le vieux village caché, machin. Ils sortent du village, gros twist. Là, il commence à se passer beaucoup, 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 beaucoup de découvertes. Et ensuite, on ne bouge plus pendant 8 tomes. Et là, arrivé au tome 9, on verra. Enfin, ouais. Je ne l'ai pas lu encore. Hein, mais arrivé au tome 9, j'ai l'impression qu'on va nous faire découvrir un nouveau village, le village de l'Ouest.
Oui, bah c'est ça. Là, c'est la première fois qu'on entend parler vraiment d'un autre clan. Et qui, parce qu'au début, c'était quand même centré sur deux clans qui s'affrontaient. Mais au final, là, on comprend que les deux clans vont devoir s'allier parce qu'il y a un troisième clan qui entre en scène et donc qui est lié à ce fameux Ivan dont on parlait. Et là, eux, ils ont l'air d'effectivement de venir d'un autre endroit et ça promet aussi d'autres choses. Quoi.
Ce que j'espère surtout, c'est qu'il y a vraiment un deuxième village caché, comme le village de Yuru, tu vois, qui est vraiment un autre truc.
Ouais, après, ça peut être un village ou juste c'est une résidence un peu je sais pas, ça, j'avoue.
Je sais pas.
Parce que tu vois, même le clan de Dera, ils vivent pas vraiment dans le village, ils sont liés au village, mais ils ont leur espèce
Oui, mais ils sont reliés.
Ouais, ils sont liés au village, mais c'est pas l'endroit où ils habitent, tu vois, c'est vraiment... Le village, j'ai l'impression qu'il a un rôle un peu particulier quand même, il a un rôle un peu central, tu vois, donc je sais
pas. Mais le fait qu'il soit en miroir, comme tout est en miroir, je sais pas.
Peut-être qu'il y a le même truc dans l'autre
village. Avec des jumeaux. Je sais pas, peut-être. Il y a un truc aussi qui m'a marqué, donc il y a beaucoup de morts dans ce manga, et qui dit mort dit fossoyeur.
Oui.
Chacun a son fossoyeur. Il y a un rôle, le rôle de fossoyeur. C'est pas non plus très attendu dans ce genre de manga.
Non, bah il y avait Hunter avec Shizuku et son super aspirateur. Mais c'est vrai que oui, c'est. Bah en fait, je pense que moi, c'est vrai que je trouve que Tsugai, c'est un titre que je mets pas mal en parallèle avec Hunter parce qu'il a aussi ce côté guerre de clan dans un monde moderne et tout. Enfin, je trouve que y a ce truc faux semblant, mais avec des pouvoirs magiques et tout. Et du coup, effectivement, le fait qu'il y ait des fossoyeurs, c'est un parallèle en plus. Quoi.
Et Anna, donc Anna qui est en coloc, hein, celle qui est en coloc avec tout le monde.
Ouais.
on peut vraiment dire tout le monde.
Qui est mariée avec Dera.
C'est ça. Ken, elle a l'air trop cool aussi. On l'a pas encore trop vu pour l'instant. Anna est en couverture du tome 9.
Oui.
Alors. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va se concentrer sur les fossoyeurs un peu plus après ? Surtout que le tome 8 se termine avec un face-à-face avec l'autre fossoyeuse qu'on ne connaît pas trop encore, mais qui a l'air totalement barge.
Oui, complètement. En plus, pour le coup, on voit aussi Anna que c'est son tsugai chien, c'est pas un petit chien. Il peut être aussi, on le voit à un moment donné, il y a une silhouette, on voit que ça peut être un énorme loup-garou, je sais pas quoi. Et du coup, bah oui, tu te dis, ah, en fait, elle cachait bien son jeu aussi, celle-là.
Oh oui. Ivan, parlons d'Ivan. Je le déteste. Je peux pas le blairer. Je veux qu'il meure. Je veux qu'il disparaisse de ce manga. Il est beaucoup trop méchant. C'est pas possible d'être aussi méchant.
Il est méchant. Il est surtout super fort, quoi. C'est un peu ça.
Il est fort. Il est méchant. Enfin, à un moment donné, stop, quoi.
Ouais. Mais après, est-ce qu'il est méchant finalement ? Est-ce que c'est pas un peu le miroir noir de Yuru aussi ? Tu vois, il est juste impitoyable. Il a une mission à remplir et il l'a remplie et il se soucie pas trop de s'il y a des morts ou pas sur son passage.
Oui, enfin, il a quand même juste tué son patron.
Oui, mais on n'a pas l'impression.
Alors, qui ne rêve pas de tuer son patron aujourd'hui ?
On n'a pas l'impression. Mais... Bon, on se rend compte que c'est pas son patron. Mais, on se dit que tu vois, c'est en fait c'est pas un personnage dont on a l'impression que. Alors même s'ils disent tout le temps que c'est un pervers, je sens pas que c'est un mec qui prend plaisir à tuer les gens. Je pense qu'il est juste très efficace à le faire. Et
tu crois que le jour où on lui met une moustache, il arrive dans le camp des gentils ?
Non, pas forcément. Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment... Bah pour moi, il a aussi ce rôle de vrai antagoniste un peu sérieux qu'il fallait aussi dans ce... dans cette mécanique de récit, il faut forcément demander qu'il y a un...
Mais il n'y avait pas trop d'antagonistes, en fait, avant lui. Hein.
Bah non, parce qu'en fait, comme les clans, ils changent de dynamique de...
C'est que de la politique, ouais, donc voilà. Ils sont tous ni gentils ni méchants.
Ils peuvent très bien changer s'ils se rendent compte qu'en fait, ça les arrange plus d'être dans tel camp ou pas. Les méchants peuvent être les gentils et les gentils les méchants. Donc là, il fallait vraiment un antagoniste. Alors du coup, t'as, au début, c'est l'oncle de la famille Kagemori, là. Enfin, le beau oncle, enfin je sais pas comment, ouais. L'oncle par alliance. Mais du coup, on voit bien que... c'est, en fait, je sais pas, tu vois que c'est un méchant qui est pas vraiment le vrai méchant, tu vois. Genre, il est... Ok, il a un pouvoir un peu stylé, ouais, ces Tsugai.
Ouais, même
cool.
Ces Tsugai, ils sont chouettes.
Ils sont cool, mais ça se voit dans son design, tu vois, que c'est, il est trop méchant, donc forcément, bah non, il va pas durer longtemps. Quoi.
Qu'est-ce que t'attends maintenant dans la suite du manga ? Moi, j'attends donc... un second village, un fight de Fossoyeur.
Un fight de Fossoyeur.
je sais pas trop quoi. Je suis vraiment à la fin du tome 8, je suis dans l'expectative.
Bah, en fait, moi, c'est un manga qui me... En fait, c'est très particulier parce que je trouve que à la fois, ça évoque plein de trucs. Tsugai, tu vois, mais j'ai à chaque fois l'impression d'avoir la personnalité de l'autrice qui est là tout le temps. Ce qui fait qu'en fait, j'ai l'impression d'être sur un terrain connu. Terrain connu en deux mots. Enfin, connu. Mais ça me surprend tout le temps, quoi. C'est-à-dire que ce fait que, comme tu disais, c'est une unité de lieu, on bouge jamais, que les alliances changent tout le temps, ça fait que je sais pas à quoi m'attendre, en fait. Et du coup, ma vraie attente, c'est de continuer à être surpris et de me dire, bon, bah voilà, il va y avoir des nouveaux persos avec des nouveaux Tsugai stylés, et qu'est-ce qui va se passer. Et puis, bah, forcément, aussi un peu, même si tu le détestes, un retour d'Ivan qui va peut-être. Tu vois, être un peu plus équilibré en termes de combat, parce que là Ivan était trop cheaté et personne pouvait le tester, tu vois, mais là...
Et un truc, et qu'on se déplace un petit peu, qu'on aille dans le nord du Japon, ouais. Qu'on aille plein ouest, je sais pas, qu'on
oui,
se déplace.
Avec des Tsugai Ainu, des trucs évidemment qui vont faire appel, parce que c'est ça aussi qui est marrant avec les Tsugai, c'est que ça fait aussi beaucoup appel à des... Alors je pense qu'il y a plein de rêves qu'on n'a pas qui sont strictement japonaises, mais ça fait aussi appel à des trucs plus de la culture populaire.
Il y a un nombre de rêves qui, je crois, est temps mesurable.
Oui, parce que tu vois,
il y a
à la fois des trucs liés à la mythologie japonaise, mais il y a le lièvre et la tortue, il y a la dame blanche, il y a plein de trucs aussi liés à la culture populaire occidentale. Donc c'est assez marrant aussi de découvrir tout cet écosystème de personnages.
Tsugai, tous les 8 tomes sont disponibles et donc le tome 9 sort là aux éditions Kurokawa. Pardon. Tsugai, signé Hiromu Arakawa. Place maintenant Robin et Cagnard au manga Full Night. Dites-nous tout. Qu'est-ce qu'il faut absolument savoir maintenant qu'on arrive à 10 tomes dans Full Night ?
Bah, 10 tomes sur Full Night, une série dont on avait déjà parlé plusieurs fois, et c'est vachement bien d'avoir un petit débrief après ces 10 tomes. Moi, je vais commencer par...
On arrive à un moment clé ou pas ?
Pas forcément. Le moment clé, c'est passé ouais, précédemment.
On a passé un gros arc.
Ouais. Là, on arrive plutôt à une... Enfin, Robin, tu me dis si t'es d'accord, sur une période de transition,
ouais,
qui va enclencher, je pense, la fin, bah, pas dans deux tomes, mais où on part sur l'arc final. Du coup, de cette lecture des 10 tomes, moi, ce que j'aurais retenu vraiment le plus, c'est que c'est un manga d'une noirceur, mais abyssale, tu vois. J'ai beaucoup pensé à Blade Runner en le lisant, et pas forcément directement, parce que limite, c'est deux mangas qui s'opposent en termes de science-fiction. T'en as un où on est vraiment dans du... où on est Blade Runner, tu vois, il y a vraiment ce côté j'ai plus le mot, post-punk,
cyberpunk
merci. Et alors que dans Full Night, on est plus sur un truc biologie punk, tu vois,
biopunk.
Mais en fait, quand il y a plein de points de rapprochement, dans le sens où Blade Runner se passe quasiment toujours de nuit, Full Night, j'ai l'impression que c'est tout le temps la nuit.
Bah, c'est tout
et
le temps
c'est
la nuit.
Exactement tout le temps la nuit, parce qu'il y a un nuage. Puis il y a toutes ces questions dans Blade Runner, c'est qu'est-ce qu'un humain par rapport à un robot. Et bah là, t'as un petit peu les mêmes questions sur est-ce qu'un humain transformé en plante garde encore une part d'humanité. Et je trouve que bah, en fait, c'est une noirceur qui se dévoile au fur et à mesure, et jusqu'à un point où vraiment moi ça m'a quasi donné la nausée à certains moments. C'est un titre qui interroge beaucoup la moralité de l'humanité, et bah, surtout de ce point de vue là ça va interroger ta propre humanité.
Ouais, et puis bah, en vrai, le tome 1, déjà, c'est bonjour l'ambiance. Hein. C'est, t'arrives, tu commences, t'as des enfants qui courent dans la rue. On t'a dit, il n'y a plus de soleil. Tu vois des gamins qui jouent devant un clodo mort dans la rue, qui est en fait un homme-plante qui a donné du coup sa vie pour donner de l'oxygène aux autres, etc. Et après, t'enchaînes sur. Tu découvres la réalité de Toshiro, le fait qu'il est en galère, qu'il est vraiment dans la précarité, que sa mère, elle est complètement folle. Et même si lui, il est prêt à tout pour subvenir à ses besoins à elle, elle est, bah, je dirais, ingrate. En fait, c'est pas de sa faute, c'est qu'elle est,
elle est
malade, mais du coup, il n'y a aucune reconnaissance. Limite, il se fait agresser alors qu'il fait tout pour essayer de subvenir pour ses besoins à elle. Et du coup, à tel point qu'il en vient à faire le truc le plus terrible, c'est-à-dire se faire transflorer lui-même pour avoir l'argent pour mettre la daronne à l'abri.
Ouais,
et c'est ça qui va lancer l'histoire, mais c'est vrai que. Tu commences le tome 1, tu te dis, waouh, ouais, c'est pas rigolo hein, cette histoire.
Ouais, puis surtout au début, c'est que des petites histoires. Tu suis des petites trajectoires de vie.
Bah, c'est vrai qu'il y a ce côté petite histoire qui fait que si Robin l'a perçu de manière hyper dramatique dès le début, pour moi, c'était limite du background, tu vois. C'était du décor, tu vois, ce clodo qui est en arrière-plan et compagnie, c'était du décor. Et du coup, t'as des petites histoires qui démarrent et qui, en fait, bah, le héros va mener des enquêtes grâce à son pouvoir. Et du coup, tu vas découvrir un petit peu le quotidien des gens dans cette dystopie. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on part d'une échelle très individuelle où on va se concentrer sur une personne, son histoire. Son histoire va te permettre de comprendre un pan de la société. Et je trouve que c'est hyper malin parce que tu vois pas du tout jusqu'où cette folie va. Parce qu'on parle d'une folie, on parle d'une société folle.
Mais c'est pas non plus Uchijima, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un fil rouge.
Bah, c'est pas Uchijima, mais c'est peut-être pire au niveau de l'ambiance. C'est quand même, il y a ce truc de, en fait, voilà, t'as ces petites histoires qui vont te permettre de comprendre un petit peu le milieu. Et à partir du tome 3, on va dire que t'as le premier vrai monstre, le vrai adversaire que va affronter le héros. Sauf qu'en fait, bah, tu te fais un petit peu avoir parce que, ce monstre, il s'appelle Ivy, il va rester jusqu'au tome 10. Et grâce à ce perso, Ivy, en fait, tu vas commencer à percevoir les dérives de cette société. Une société qui était déjà dégueulasse à la base, c'est-à-dire te proposer de l'argent pour fournir de l'oxygène. Mais en fait, tu vas voir que, bah, évidemment, si ça, c'est l'aspect propre qui est déjà dégueulasse, bah, il y a des aspects encore pires, des expériences interdites, des kidnappings ou autres. Et là, tu vas sombrer encore un peu plus loin dans la noirceur du titre.
Bah, c'est un arc de l'auteur finalement, Ivy.
Ouais, mais en fait moi ce que j'aime bien aussi c'est que je suis d'accord qu'il y a effectivement cette construction en petites histoires au début, et en fait l'arc Ivy, si on peut dire, il démarre finalement assez vite, et en fait je trouve que la transition est très organique parce que en fait l'arc Ivy, c'est certes il y a un objectif, c'est-à-dire le traquer, comprendre d'où il vient, etc. Mais la structure du manga change pas tellement, c'est-à-dire que la traque d'Ivy, c'est un fil rouge, mais derrière, ça va construire plein de petits récits aussi, et comme dit Cagnard, qui vont nous donner encore des infos complémentaires sur l'univers dans lequel on voyage, parce qu'au final, on dit souvent que le manga, c'est un art qui est drivé par les personnages, et c'est vrai, c'est le cas aussi dans Full Knight, mais Full Knight, je trouve que le vrai personnage principal, c'est l'univers, en fait. C'est vraiment ce concept de... et si on se trouvait dans cette situation-là, on avait la capacité de faire devenir des fleurs, des plantes, les humains, et ce que ça peut amener, etc. Bah, toutes les questions que ça pose, quoi. Et en vrai, je trouve que l'arc Ivy, qui est quand même un moment de bascule, et qui emmène, encore une fois, le manga dans des trucs encore plus noirs qu'on avait pu avoir, et bah, je trouve que il est aussi... il perd pas le manga dans ce que le manga avait à faire au départ, c'est-à-dire te dépeindre cet univers. Et puis d'ailleurs, c'est marrant parce que, en fait, quand cet arc se boucle, le manga revient dans la structure un peu du début, mais encore une fois, de manière alors presque un peu moins organique, parce que la première petite enquête. Quand il y a plus Ivy, vraiment, c'est Toshiro et l'histoire du peintre.
Ah, elle est limite mignonne, cette histoire.
Qui est une petite histoire un peu anecdotique, mais qui est vraiment le petit truc de transition. Genre, rappelez-vous, c'était ça au début, puis hop, après, on repart sur un truc peut-être un peu plus long. Mais je trouve que, en fait, globalement, je trouve la structure du récit, c'est tout le temps ça, quoi. C'est un récit avec des persos principaux, certes, mais un peu choral aussi dans sa structure, avec plein d'histoires, quoi.
Mais avec la ville qui ne bouge pas.
Bah, t'as ce truc, c'est là où je rapproche beaucoup le manga de Ikigami, c'est-à-dire des petites histoires qui te permettent de comprendre cette dystopie. Et puis on arrive au tome 4, Et là, au tome 4, on entend parler de la ville précaire. J'ai fait des guillemets imaginaires. Et là, pour le coup, on s'enfonce encore plus loin dans l'inhumanité de cette société. Et moi, là, c'est vraiment le moment où ça a commencé à mettre mal à l'aise, parce que là, on est... En fait, là, on parle vraiment d'un manga qui est éminemment politique. Ça parle d'un système de domination des plus riches et l'oppression des plus faibles. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré dans ce titre. C'est un titre qui fait pas semblant de parler politique. Le rapport de classe, il est un peu au centre de tout l'ouvrage. Et je trouve que c'est hyper rafraîchissant pour un titre japonais. Enfin, moi, l'habitude que j'ai en lisant des mangas, c'est pas forcément avoir des titres très forts politiquement. Ou alors, t'as un petit vernis au début. Je pense à Gajakuta, tu vois, où oui, on va parler d'écologie au début. Après, on va faire des gros monstres et tout. Là, ça ne bouge pas. C'est un manga qui veut parler du rapport de force entre les classes dominantes et les classes dominées.
Ouais, et puis vraiment, quand tu découvres ce truc, cette ville précaire, le lore de l'endroit, il est terrifiant, quoi. C'est vraiment donc déjà c'est vraiment l'endroit,
mais tu sais qu'il y a même un moment où j'ai voulu ne pas y croire quand il y a les arbres oui. avec les bouts de bras oui. et compagnie, et je me suis dit mais non, il y a pas quelqu'un oui, qui est là pour scier les bouts de bras et les bouts de pieds qui dépassent quand
c'est
même.
Ça c'est qu'en fait l'endroit est horrible dans ce qu'il décrit de la société humaine, mais en plus graphiquement je trouve que le manga il va vers des territoires où on l'avait pas encore beaucoup vu, des trucs vachement plus fantastiques avec voilà ce truc de cette forêt avec des bras qui dépassent et tout, et donc vraiment tout, il n'y a rien qui va dans ce truc, mais par contre c'est passionnant, et je trouve que le choix du mot précaire, ville précaire, c'est aussi une manière d'affirmer frontalement les ambitions politiques du titre dont parlait Cagnard, parce que tu vois là on parle pas d'un truc un peu vaporeux genre la ville basse, la ville noire ou tu sais des trucs, c'est vraiment la ville précaire, parce que c'est vraiment un manga qui parle sans arrêt de ça, de la précarité, du manque de thunes. C'est vraiment, j'ai rarement lu un manga où t'as autant de scènes où le mec il se dit combien je vais avoir d'argent, t'as même des mecs qui, tu vois, t'as des scènes avec des mecs qui font des calculs sur ce qui, comment ils vont pouvoir combler les fins de mois et tout, et c'est vraiment, c'est là je trouve qu'on est vraiment dans un rapport pas du tout abstrait à la misère, c'est des choses concrètes, matérielles, c'est vraiment, t'es dans le quotidien de ces gens qui n'ont pas, qui sont dans un monde sans oxygène, tu suffoques avec eux dans ce monde qui a plus d'oxygène, quoi. C'est vraiment très très
son petit fleuri,
mais c'est le principe, tu vois, de la ville précaire, parce que bah du coup avec cette chape de plomb qu'il y a autour de la terre, en fait tu dois payer ton oxygène, et quand tu ne peux plus payer ton oxygène, eh ben t'es automatiquement envoyé dans la ville précaire. Je trouve que c'est criant de réalité, tu vois, vraiment. Et donc quand t'arrives dans la ville précaire, déjà t'en as pas entendu parler jusque là, oui. Et là tu dis attends, mais en fait il y a une, littéralement bah c'est des bidonvilles, c'est des bidonvilles de gens qui n'ont plus d'oxygène, qui n'ont plus de quoi se payer de l'oxygène. Et rien que ce qui pourrait être un high concept de con, enfin de con non, mais un high concept un peu marrant, tu vois, qui peut te donner un truc, c'est un titre qui pourrait être orienté uniquement action, et là d'un coup on va sur ce côté de la ville précaire. Et comme dans n'importe quelle bidonville, tu vois à quoi ressemble le système bis. Le système, quand le gouvernement t'a abandonné, ouais. Eh ben ça va jamais très bien, hein, quand le gouvernement t'a abandonné.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que c'est pas binaire, tu vois. C'est pas parce que c'est les miséreux qui vivent dans la ville précaire que c'est les gentils, tu vois. Genre vraiment, la ville précaire, le système, il est horrible aussi, et le système interne est horrible.
Alors qu'en plus, il est un peu communiste. Parce oui. que la prime que t'es censé, tu sais, la prime que tu touches quand tu te fais transplorer,
oui, tu es censé la partager avec tout le monde.
Dans la ville précaire, tu dois la partager à tout le monde. Tu n'as pas le choix. Si t'es dans la ville précaire, tu peux pas dire ouais, vous faites ce que vous voulez, moi je garde ma prime. Non, t'es obligé de la partager. Moi au début j'ai vu ça comme un truc un peu communiste et cool, mais en fait ça fait que tu ne pourras jamais sortir de la ville précaire, parce que t'auras jamais les moyens tout seul de sortir.
Il y a un terme que vous avez pas utilisé encore quand vous parliez de l'arc Ivy, etc.
Oui, on n'a pas beaucoup parlé d'Ivy, mais...
Vous n'avez pas beaucoup parlé d'Ivy, mais le manga, à un moment donné, il tourne en tueur en série, en thriller.
Bah, tu passes par ces différentes phases, et tu vois, quand l'arc Ivy, qui est l'arc qui te permet de comprendre que cette société qu'on t'a expliquée, en fait, elle est plus complexe que ça, et bien dans la deuxième moitié du titre, tu comprends que le gouvernement est fortement impliqué. Et pour moi, on arrive plus sur un style de thriller paranoïaque. Je pense au film Ennemi d'État de Tony Scott ou L'affaire Pélican, où t'as ce truc vraiment qui revient, l'ennemi vient de l'intérieur et faut se méfier de tout le monde. C'est très, Captain America, Civil War, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment un truc qu'on perçoit pas dans le manga, c'est les changements de genre qu'opère l'auteur auteur pendant tout l'album. Et donc là, voilà, on est vraiment dans un truc très ah, mais qui est l'espion? Est-ce qu'il ment? Est-ce que je mens et tout? Et ben, ça donne un second souffle à la série aussi.
Ouais, et c'est aussi ce qui fait que le manga n'oublie pas son rôle de divertissement non plus, parce que là, c'est vrai qu'on parle de trucs très très plombants, etc. Ce qui pourrait te dire que c'est un manga difficile d'accès, tu vois. Et en fait, je trouve que alors il peut l'être, mais il y a aussi des vrais moments de tension, d'action. Enfin, franchement, moi, il y a un perso que j'adore, c'est Saeko, là, l'espèce de vétéran qui a tout le temps une casquette et une batte de baseball. Genre, le perso est trop stylé, il est trop fort et tout. Et elle est vraiment, genre, quand elle entre en scène, elle casse des gueules et c'est vraiment super bien chorégraphié. C'est ciselé. Moi, ça m'a rappelé des fois Ajin, parce que c'est de l'action, tu sais, militaire, guérilla, tu vois, dans un monde urbain et tout. Et avec à la fois des armes blanches, des armes à feu et tout. Et donc, comme t'as à la fois ce côté, la traque d'une créature fantastique qui est ce Ivy, qui est quand même un sanctiflore qui peut se déplacer, qui peut tuer des gens. Donc tu as ce côté très fantastique sur quand il arrive à Ivy, il est très dangereux aussi. Mais tu as aussi des vraies scènes d'affrontement humain contre humain, parce que tout ça est pris dans un complot politique avec des tueurs à gages et tout. Et vraiment, t'as ce mélange entre le propos politique, mais aussi la forme qui est très divertissante.
Et ouais, puis c'est Saeko, marrant parce que... je fais une petite interruption sur Saeko, parce que c'est l'un des personnages les plus stylés, mais v'là le désespoir.
Ah oui,
et on
oui.
connaît pas toute son histoire encore. Moi, j'ai limite envie de leur vous concentrez pas trop sur elle, parce que je sens que ça va être dramatique, s'il vous plaît.
Justement, c'est marrant, parce qu'à part Ivy, Saeko, c'est seulement le deuxième nom que vous name-droppez dans les personnages.
Ouais, parce que le manga, de ce point de vue-là, il est construit de manière assez originale. En fait, Kamiya, le héros, il lead pas forcément le manga. C'est un duo avec Yomiko, qui est une fille qu'il connaît depuis très longtemps. Et d'ailleurs, Yomiko, en fait, c'est elle qui a les scènes les plus badass. Elle est là sur tous les moments de planification, de jeu de bleu, de jeu de bluff, de savoir qui est le traître. Là où Kamiya, tu l'auras beaucoup plus présent sur des parties fantastiques, voire organiques, vu que lui, il est capable de se connecter aux plantes. Tu vas avoir tout ce truc vraiment de morale qui va représenter. Là où Kamiya... Yomiko, elle est chirurgicale. Elle travaille au gouvernement, elle sait qu'il y a des traîtres au gouvernement, et même sa moralité à elle, elle est pas fou, elle est pas folle non plus, tu vois. Et j'adore ce côté où on alterne toujours entre les deux persos.
Ouais, moi c'est le seul truc sur lequel j'ai un petit bémol, c'est Kamiya Toshiro, je crois, le perso. Enfin, moi je l'appelle Toshiro, Kamiya comme Toshiro. Mais bon.
J'ai pris le premier nom.
Ouais,
qui est arrivé.
Et en fait, je trouve ça un peu facile. À quel point il est à l'aise dans ce nouveau système où il connaît rien. Et tu sais, des fois, il est quand même un peu trop fort pour, dans certaines scènes, mais c'est un peu normal. C'est une facilité, on va dire, pour que l'histoire avance. Mais c'est vrai que c'est assez cool d'avoir ce duo de persos qui porte l'intrigue. Mais il y a aussi plein d'autres personnages secondaires. Et comme l'auteur a quand même un traité graphique qui fait qu'il caractérise quand même vraiment bien ses persos, ça fait vraiment que le personnage principal, c'est le concept, c'est l'univers. Mais il y a aussi vraiment des personnages dont tu te souviens, quoi.
Mais tu vois, même Kamiya, je suis d'accord avec toi, mais il y a vraiment un truc où tu sais, il est en CDI dans cette boîte, et clairement à un CDD. Moment il est en CDD, et vraiment il est question de est-ce qu'il va pouvoir passer en CDI. Et je suis d'accord avec toi, c'est traité un peu par-dessus la jambe, genre ah, si on résout cette enquête, il pourra passer en CDI.
Oui.
Dans le monde réel, ça ne se passe
puis
pas
est,
comme
il
ça
il est un peu trop à l'aise, quoi. Mais
bah,
bon, après,
il est
voilà,
vachement c'est... à l'aise, mais tu vois, même là, l'auteur remet ce truc en avant de... Et c'est souvent, ça passe souvent par le manger dans le manga. Il n'est pas vraiment question tout le temps de gagner d'argent, mais souvent de manger. Il y a plein de persos qui sont là pour manger, parce que bah en fait, c'est un des trucs les plus importants et un des seuls trucs qui leur reste au final.
Pour finir sur Full Night, Robin, tu voulais parler de l'aspect graphique, et Cagnard, tu voulais parler d'une ressemblance avec Gunm.
Ouais, bah pour parler du dessin, je trouve que c'est un titre qui se démarque aussi par sa dimension graphique. C'est une approche qui est souvent, je trouve à moi, assez radicale pour un manga quand même, malgré tout, dans un magazine, on pourrait dire grand public, quoi. Enfin, publié dans un magazine grand public. Et c'est sans doute d'ailleurs assez clivant comme approche. Je pense que c'est aussi c'est pas un manga qui cartonne, donc je pense que c'est aussi parce qu'il a des freins sur certains éléments, et je pense que la dimension graphique en fait partie. Mais moi, je la trouve très très intéressante parce que je trouve qu'il y a des partis pris vraiment radicaux. Quoi. T'as un truc qui peut énerver, je pense, il y a un vrai surjeu sur l'émotion des personnages. Les personnages, quand ils chialent, il y a 12 litres de flotte qui tombe. Ça dégueule. C'est vraiment genre le côté, les persos, comment ils réagissent et l'expression de leurs émotions, elle est vraiment, vraiment très surjouée. Mais moi, je trouve que ça ajoute aussi à cette dimension organique de l'univers, tu vois, genre vraiment, enfin, il y a des scènes assez marquantes aussi à ce niveau-là. Mais moi, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est la manière dont les cadrages mettent souvent en valeur le décor de manière assez disproportionnée. Le décor est souvent très détaillé et les personnages sont souvent très décentrés par rapport au cadre et le décor a une place vraiment, vraiment très importante. Et je me posais la question, je me dis, c'est très bizarre. Alors, je sais que c'est aussi des effets un peu de style, on pourrait dire, tu vois, c'est très expressionniste d'avoir comme ça des grandes diagonales, des espèces de contre-plongées et tout. Mais je pense qu'à mon avis, il y a une vraie intention. Enfin, après, je sais pas, hein, c'est ce que j'en projette, mais c'est quand même, comme on parle d'un monde où, en fait, il y a des habitants qui vivent et tout, mais il y a aussi des habitants qu'on voit pas, parce que c'est aussi le propos, c'est parler des invisibles qui sont ces gens qui se transforment en plantes. Ce qui fait qu'en fait, le monde est sans arrêt peuplé d'individus qui sont dans le décor, littéralement. C'est des plantes, en fait, mais c'est des gens et c'est des acteurs de ce monde, quoi. Et je me dis que, en fait, ce fait de jouer sur les valeurs de plan et sur le décor, c'est peut-être aussi une manière de parler de ça, quoi. De dire, bah oui, mais si vous êtes attentif, vous verrez qu'il y a des plantes parfois dans le décor qui peuvent être des personnes, enfin, qui sont des personnages, littéralement, de cet univers, quoi. Et ça, je trouve ça assez, assez fort. Et puis, il y a aussi, bah, évidemment, la représentation des plantes. Dans une interview, l'auteur, il a dit qu'il a épluché des manuels de botanique. Ça se sent, tu vois, il y a vraiment... En même temps, c'est normal, tu vois, il veut que les plantes que les individus deviennent peuvent aussi être liées à la personnalité qu'ils avaient et ce qu'on en fera aussi. Et ça, je trouve que bah, c'est important, forcément, que graphiquement, on voit aussi une vraie diversité à ce niveau-là, quoi.
Et pour l'aspect gun, ça, c'est vraiment un truc que j'ai découvert au fur et à mesure de la série, parce que, on va dire, dans les 3-4 derniers tomes, il est question de la centrale, donc, tu sais, t'as la population, le gouvernement, et là, tu prends conscience d'une entité supérieure qui est la centrale, et c'est que là, j'ai vu Zalem, vraiment, parce qu'en plus, t'as évidemment des personnages de la centrale qui sont infiltrés dans le gouvernement, c'est là où on parle du récit paranoïaque, et j'ai vraiment vu une ressemblance, mais flagrante, entre ces persos qui viennent de la centrale, et qui ont tous des visages très bizarres, très souriants, très figés, c'est des clowns un peu désaxés, et j'ai trouvé ça trop marrant, enfin trop marrant, parce que c'est exactement comme Blade Runner, tu vois, pour moi, il y a vraiment ce côté où c'est l'anti-gun, parce que gun, on est dans la hard tech, tu vois, vraiment, c'est de la SF hard tech, et là, on est sur de la biologie, mais il y a ce même truc de personnages qui sont au-dessus et qui sont différents. Et très rapidement, tu vas découvrir que ces personnages de la centrale, ce à quoi ils aspirent, c'est aussi retourner à la centrale, parce que quand tu te fais dégager de la centrale, c'est que t'as fait une connerie. Et j'ai vraiment vu un rapport qui est, bon, bah, évident, hein, Zalem, le peuple d'en bas. Et là, il y a vraiment un côté où, là, moi, je ne peux que y voir un hommage à Zalem et à ces personnages qui sont fous, mais qui sont au-dessus, censés être au-dessus.
Mais je crois que tu peux pas mieux vendre Full Night en disant... Il y a un moment donné, ça va vous faire penser à Gun.
Insistons sur le « il y a un moment donné » quand même, on ne veut pas mentir.
Un gun pas vertical, tu vois.
Tout
le monde vit dans le même endroit.
Vous attendez quoi sur la suite du manga, là, dans le tome 11 qui sortira au mois de juin?
Bah là, il n'y a qu'une seule échappatoire, hein, c'est la révolution. Quand tu as présenté un manga de société comme ça, c'est pour ça que je parlais d'Ikigami, la dernière étape, c'est la révolution, c'est brûler tout.
Ouais, en plus, t'as un perso...
Non, brûlez pas les plantes, pardon, pas dans ce monde.
T'as un perso quand même qui arrive aussi, qui est assez cool, c'est la nana qui dit qu'elle est la fille du roi de la ville précaire, et là, tout de suite, ça, tu te dis, ah ok, donc il y avait un roi de la ville précaire, je savais pas, mais c'est intéressant.
Et il y a la princesse de la ville précaire.
Le Roundup.
Ils n'ont pas parlé de Roundup encore dans ce manga. Mais d'ailleurs, tu vois, par exemple, dans le dernier tome, pour dire à quel point encore ça change de style, on est dans un whodunit. Il y a une mission dans un temple bouddhiste. Et c'est là que je trouve l'intelligence de l'auteur, c'est qu'il a tellement pensé à tous les aspects de son high concept que même la religion, il a dit, oui, oui, bien sûr, c'est intégré à mon univers. Évidemment, les bouddhistes, maintenant, doivent se transflorer eux-mêmes pour arriver au nirvana. Et tu vois, et on est vraiment dans un Agatha Christie, tu vois, genre qui est le meurtrier, ça dure un tome, et je trouve que l'auteur est hyper généreux là-dedans, et il nous donne énormément de trucs différents à manger, quoi, avec ce manga.
Full Night, c'est signé Kasumi Yasuda. 10 tomes sont disponibles. Le tome 11 sort le 17 juin prochain et c'est aux éditions Glénat. Robin, il est l'heure maintenant de parler de notre manga. J'ai envie de dire que c'est notre manga
à
nous, à vous qui écoutez cette émission. Journey Beyond Heaven, ça y est, on est au tome 12 maintenant. Et alors, on pouvait déjà le dire il y a quelques mois maintenant, mais c'est officiel, ce manga n'est pas un manga prémonitoire. Parce que, souviens-toi, quand on l'a lu à l'époque du Covid, etc., on voyait une météorite tombera sur Terre en 2024 au mois de novembre. Du coup, moi, je suis arrivé au mois de novembre 2024, j'étais un peu tremblotant et je me suis dit, bon, on ne sait pas.
C'est la planète Nibiru.
tout est possible, on ne sait pas. Aucune météorite n'a ravagé la planète en novembre 2024. Voilà. On est là.
Ou alors nous vivons dans la matrice et on ne le sait pas et peut-être que c'est
arrivé. On ne sait pas. tout est possible. Mais voilà, je trouvais ça important de préciser que finalement ce manga n'est qu'une fiction.
Oui.
Au cas où on pouvait en douter, tu vois, on ne sait jamais.
Oui, bah, y a des liens un peu avec notre société. Moi, en vrai, c'est un plaisir assez constant hein, de lire ce titre. Moi, je trouve que ce qui est cool, c'est que là, on arrive à un moment aussi où le manga a quand même beaucoup reposé sur le fait qu'on était sur deux timelines, on en a beaucoup parlé, et le fait que tout l'enjeu, en fait, c'était de savoir comment ces deux timelines sont connectées, quoi. Et là, maintenant, c'est des éléments... Enfin, on a beaucoup de...
On
sait tout, voilà, maintenant. On sait très bien qu'est-ce qui différencie les deux timelines. Et je trouve que, du coup, la dynamique de mystère change un peu, quoi. On sait que maintenant, on a capté le lien entre les deux timelines. Donc, l'enjeu, c'est plus de savoir qu'est-ce qui les relie. C'est de voir quand et comment les récits vont s'entrecroiser. Parce qu'en fait, ils sont liés... mais pas temporellement. Donc du coup, c'est intéressant de voir comment tout ça va s'entrecroiser.
Mais la météorite qui tombe, on en avait déjà parlé il y a 2 ans maintenant, parce que ça fait 2 ans que cet homme-là sont sortis. Le moment où la météorite tombe, où on le voit nous en tant que lecteurs, c'est un vrai game changer dans la manière dont on appréhende le manga et dont même le scénariste, ouais. L'auteur appréhende son propre manga. Et maintenant, je sais pas si t'as remarqué, mais genre dans le tome 11, dans le tome 12... au moment de la présentation des personnages, tu sais, t'as des espèces de...
Ouais.
T'as une présentation visuelle, graphique, t'as 3 timelines. on a fini les 2 timelines, ça c'est trop facile. Maintenant, vous êtes des lecteurs experts, on peut passer à 3, à 4 timelines. En fait, il y en a beaucoup.
Bah, en fait, oui, mais c'est vrai que je dirais qu'il y en a 3 principales. C'est celle de Maru et... mince, j'ai oublié son prénom. Celle qui est avec Maru. Bon, bref. Les deux qui sont dans le monde extérieur depuis le début du manga. On a la timeline des enfants qui étaient dans le centre et qui maintenant sont sortis. Mais comme on a compris maintenant qu'en fait, entre les deux, il s'est passé plusieurs dizaines d'années, je crois. Enfin, en tout cas, il s'est quand même passé un certain nombre de temps. Bah, la troisième timeline, c'est... qu'est-ce qui est arrivé aux gamins du centre qui sont encore là ? Parce qu'il y en a qui ont disparu, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont devenus d'autres choses. On en parlera peut-être plus tard. Mais en gros, voilà, c'est ça les 3 timelines principales. Et après, les couches qui viennent se rajouter à ça, c'est évidemment les flashbacks. Parce que le manga, c'est un médium où on parle. Il y a toujours beaucoup de flashbacks. Et là, c'est un récit aussi où il y a à l'intérieur de chacune des timelines des flashbacks qui vont encore ajouter des sous-couches de temporalité. Quoi.
Kiruko, le nom que tu cherches.
Kiruko, oui, bah, c'est vrai que ça ressemble à Hiro.
Évidemment. On intègre maintenant donc la pègre. Je trouve ça extrêmement important dans la lecture et j'étais tellement impressionné par le réalisme qu'il a donné à cette pègre et au fait qu'on se retrouve avec des gens qui veulent créer des organisations associatives pour faire le bien dans le but de détourner de l'argent. Je trouve ça en fait tellement crédible et tellement... c'est triste, hein, mais c'est une vraie vision de notre époque, puisque du coup, cette timeline-là, c'est notre époque.
Oui.
C'est 2024, c'est ce qui se passe. On voit des artistes, on voit du gaming, on voit de la cuisine, on voit énormément de choses en fait, de notre quotidien, je trouve maintenant, à travers toutes ces timelines, parce que là, arrivé au tome 11, au tome 12, toutes les 2 pages, tu peux changer de timeline, hein.
Ouais, et puis t'as, en fait c'est ça, c'est vraiment l'exemple type du manga récit à tiroir, quoi. T'as vraiment à chaque fois des récits dans des récits dans des récits et souvent je pense que c'est j'ai vraiment l'impression que l'auteur il veut faire de ce titre un espèce de manga total, tu vois. Certes c'est un manga de science-fiction, mais comme tu dis, il veut vraiment intégrer tous les éléments de la société actuelle, tu vois. Et vraiment, il y a tout ça. Il y a des, évidemment, on en avait déjà parlé, des références aux questions de genre, des références aux violences sexuelles. Mais tu vois, c'est pas que une histoire. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends la question de la violence sexuelle, t'as l'histoire, le viol de Robin sur Kiroko. Mais c'est, mais aussi, à un moment donné, t'as une histoire avec une gamine où tu comprends qu'elle a été violée quand t'étais petite par un gars et qu'après, elle veut se venger de lui et tout. Enfin bref, t'as vraiment cette espèce de poupée russe de sujets qui sont finalement dans le même récit, quoi.
Carrément. Et moi, il y a un message, en fait, un dialogue qui m'a marqué. Quand ils finissent du côté de la grande ville où ils sont avec le ministère de la Reconstruction, tu sais qu'elle retrouve le docteur qui lui a transféré le cerveau, etc., Kiroko, et qu'elle discute avec la dame qui dirige le ministère, quoi, la ministre en chef, qui était amoureuse en plus du docteur. Et elle lui dit, mais désolé pour le monde qu'on vous a laissé à vous, les jeunes. Je trouvais que j'avais presque l'impression d'entendre l'auteur du haut de ses 40-50 ans en disant... Désolé les jeunes.
Ah oui. C'était... Non, t'as pas entendu Mélenchon qui disait faites mieux.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'étais presque dans ça, quoi, tu vois.
Ouais, bah oui. Mais je te dis, c'est vraiment ça, quoi. C'est un manga qui veut parler de la société, quoi, je pense.
D'ailleurs, j'ai adoré le personnage louche chelou, c'est bizarre de dire ça, dans le ministère de la Reconstruction, au moment donc du tome 9-10, le mec, il a l'air d'être un loubard, il a tout le graphisme.
Ah oui, avec les grosses cicatrices.
Ouais,
et tout,
il a tout le graphisme du mec qui va faire un coup en douce, et à un moment donné, il dit, ouais, je sais, je ressemble à un mec louche, mais non, en vrai, je suis sympa. Et c'est vrai, il est sympa. C'est tout le long, il est sympa, il les aide.
Ouais, ouais. Et ça, c'est un truc sur lequel le manga, on en avait déjà parlé aussi, mais c'était ce côté, c'est un monde où tout le monde n'est pas méchant, tu vois. C'est pas Walking Dead, t'as aussi des gens qui sont dans l'entraide, t'as des communautés où ça se passe bien, il y a des communautés où ça se passe des fois pas ouf, mais c'est la vie, quoi, en gros. Tout le monde cherche à s'organiser, à trouver aussi comment trouver sa place dans ce monde. Tu parlais du mangaka, enfin des artistes, t'as quand même tout un passage sur un personnage qui continue à écrire des mangas dans ce monde. Tu te dis, mais pourquoi? Et en fait, bah si, c'est important, tu vois.
Mais en tant que lecteur de manga, moi j'ai adoré ces passages. Et clairement, quand tu leur dis non, mais faut aller dans les boutiques d'occasion pour aller trouver des mangas, oui, pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis le début? Moi, c'est un des premiers trucs que j'aurais
fait.
Au
courant,
évidemment. Et à un moment donné, je vois qu'il y a des créations de mangas dans ce monde qui est dans plusieurs dizaines d'années, avec un monde ravagé où plus personne n'a connaissance de ce qui se passait 40 ans avant. Et moi, je me suis mis à la place des mangakas, j'ai fait « Ah, moi, je réinventerai Dragon Ball. » Clairement, je me dis « Non, mais je ferai un truc, ça serait Dragon Ball, je dessinerai pas aussi bien que Toriyama, mais je me débrouillerai, et puis je serai super connu et j'aurai réinventé Dragon Ball. » Et alors, au moment où je me dis ça, je m'attends pas à la suite de cette histoire, et on découvre qu'en fait l'autre mangaka fait exactement ce à quoi moi j'ai pensé. J'ai fait non,
ouais.
Incroyable. Et c'est tellement,
oui, puis c'est
évident,
c'est là aussi où il y a l'histoire de, justement, ils font toute une quête pour trouver la suite d'un manga que la personne n'a plus, et en fait quand ils le trouvent,
voilà,
il
fait la chute.
T'as vraiment c'est le tome où le mangaka dit en fait mon éditeur veut qu'on arrête la série, donc ça va s'arrêter là. Et lui qui dit, putain, mais j'ai fait tout ça pour ça, quoi.
Et donc le mangaka qui reprend le manga du passé, il va devoir créer lui-même la suite. La finalité de cette petite histoire dans cette grande histoire de Journey Beyond Heaven, je l'ai trouvé assez incroyable. Surtout que maintenant, on a conscience que tous les personnages issus de l'orphelinat ou issus lointainement de l'orphelinat, ils ont tous des pouvoirs. Chose dont on n'était pas... Enfin, c'était étrange, mais on n'était pas sûr qu'ils aient tous absolument des pouvoirs à ce point-là, quoi.
En fait, ce qu'il y a, c'est que quand ils étaient dans le centre, on avait conscience qu'ils étaient bizarres et qu'il y avait...
Et qu'ils avaient des aptitudes.
Qu'il y avait des manipulations génétiques sur eux. Et et on pressentait, mais en plus c'était même pas chez tous, tu vois, genre il y en avait certains qui avaient des aptitudes qu'on voyait tout de suite, mais les autres on savait pas. On se disait bon bah ok, il y en a une, elle a des capacités un peu athlétiques et tout, mais c'était pas aussi précis que là où ça allait maintenant, parce que là vraiment maintenant c'est vraiment du manga à pouvoir, avec vraiment tu t'as même dans les interchapitres une fiche perso avec le nom du gars et les pouvoirs qu'il a, quoi. Donc c'est vraiment littéralement des super pouvoirs, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est, bah, ça change la donne aussi, parce que ça amène aussi le manga dans un truc où on l'attendait pas, parce que on s'attendait pas à ce que ça devienne un manga avec des super pouvoirs.
Et on s'attendait pas à humaniser un personnage qui a le même nom que toi, Robin.
Bah ouais, moi je trouve ça, c'est un passage qui m'a vraiment frappé, parce que j'avais on va dire que Journée, c'est un manga qui est un peu dur à replonger dedans, parce qu'il est très dense, mais ouais, il y a des trucs dont tu te souviens quand même, genre. Et
moi je me souviens de tout, mais à chaque fois que je reprends, si j'abandonne, parce que du coup maintenant on a 6, 7, 8 mois entre chaque tome, les, je sais pas, mes 80-90 premières pages, j'ai beaucoup de mal à m'y remettre, je suis obligé du coup de reprendre plusieurs tomes en arrière pour me remettre dans la danse, tu vois.
Ouais, et clairement, ce qu'on sait, moi, un des événements dont on se souvient, je pense, tous, même si on oublie des choses, c'est que Robin, c'est une énorme saloperie et qu'il est vraiment à l'origine d'un des moments les plus traumatisants du manga. Et l'auteur arrive quand même à nous, à un moment donné, nous amener un flashback sur la jeunesse de Robin, qui, bah, pour le coup, a connu la catastrophe et a dû survivre dans cet univers et tout. Et vraiment, tu te dis... Ah putain, mais c'était pas facile sa vie, en fait, à ce pauvre Robin.
Non, et bizarrement...
Et tu te mets à avoir de l'empathie pour lui, alors que tu sais l'ordure que c'est. Et bon, après, c'est un peu... c'est là où quand même l'auteur a une forme d'intégrité, c'est qu'il il te laisse pas là-dedans. C'est qu'il te fait quand même comprendre assez vite que Robin a quand même, au fond de lui, quand même une personnalité quand même maléfique. Mais quand même, je trouve le début du flashback, il est où il se rend compte qu'en fait, il est responsable de la mort de sa sœur et que c'est ça qui le détruit, tu vois. Et putain, tu te dis, mais c'est quand même fort d'avoir réussi à me créer de l'empathie sur ce mec.
Soit, mais malgré tout, je trouve ça... réaliste, dans le sens où la plupart des gens maléfiques de notre de la vraie vie ne sont pas nés maléfiques, et que c'est leur jeunesse, leur enfance, leur vie qui les ont rendus ainsi. Et finalement, je trouve que ça crédibilise encore tout, et d'autant que en termes de crédibilité, tout le flashback de Robin va jusqu'en avril 2026. On est quand aujourd'hui, Robin? On est en avril 2026.
Et je suis encore gentil.
Et t'es encore
peut-être
gentil.
Que je vais devenir horrible. Mais t'as tout à fait raison. Mais malgré tout, je sais qu'il y a des artistes qui aiment bien jouer sur cette ambiguïté, mais de manière un petit peu malhonnête et un petit peu maligne. Et il aurait pu tomber là-dedans, l'auteur. Mais justement, je trouve qu'il arrive à retomber sur ses pattes et à faire en sorte que l'empathie que t'as eue, elle est quand même désamorcée par le fait que, bon, au final, non, ce mec n'est pas pardonnable malgré ce qui lui est arrivé, quoi.
Bon, faisons le point, Robin. Maintenant, on sait tout. Non, mais on sait tout, en fait. Mais qu'est-ce qui nous reste comme mystère ?
Bah, je sais pas trop, parce que c'est vrai que quand j'ai réécouté les émissions qu'on avait fait et on avait dit notamment que ce qui était super dans ce titre, c'était évidemment le sens du mystère qu'il amène, et c'était aussi que là où il évitait l'écueil des récits des huis clos, dans le sens où dès le début il te montre qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur du centre, et du coup on se disait qu'on n'allait pas être déçu par la révélation de ce qu'il y a à l'extérieur, puisqu'on le sait déjà. Et ça, je trouvais ça super. Mais c'est vrai que là, je dois quand même faire un petit coming out. C'est que je trouve que depuis que l'orphelinat est ouvert et que les gamins sont sortis, il y a eu plein de révélations super intéressantes, etc. Mais quand même, je dois reconnaître que je suis un peu moins happé par le récit, parce que j'ai moins ce plaisir à découvrir des choses. J'ai l'impression que je vais moins découvrir de choses. Maintenant, je vais essayer de voir comment les pièces du puzzle vont s'assembler, mais j'ai plus le côté révélation qui est grisant aussi, quoi.
Soit, mais j'ai trouvé que toutes les révélations étaient super logiques. L'orphelinat, les expériences, les raisons, tout ça. J'ai trouvé que tout était extrêmement logique, tout était amené, tout s'emboîtait. Finalement, dans l'histoire qu'on voyait depuis le début, on sait maintenant aussi pourquoi Kiruko, frère, sœur, pourquoi elle s'est pris une balle, pourquoi le docteur lui a transféré le cerveau d'un corps à l'autre. En fait, on sait tout. Ça, c'est bouclé, ça, c'est fini. Pour Maru, bah, finalement, on connaît son origine. Maintenant, bah, ce qui nous reste à savoir, c'est son frère jumeau.
Oui, voilà.
Qui il est, quoi, quand, où.
Oui, le seul truc qu'on ne sait pas, c'est si Maru est le vrai Maru ou si c'est le clone qui a été fait pour justement avoir un contre-pouvoir, entre guillemets.
Et qu'est-ce que c'est que cette substance qu'il a, qu'il doit donner à son frère jumeau, ou on ne sait pas.
Ouais, ouais.
Et pourquoi ? Mais qui reste un beau mystère quand même.
Hein. Et puis presque, on a le plus gros de tous les mystères, c'est-à-dire l'origine des dévoreurs. On sait qui sont les monstres, tu vois. Et moi, j'étais persuadé que ce serait le dernier truc qu'on saurait, voire je pensais qu'on le saurait pas, tu vois. Et en fait, bah maintenant, on sait que les Hiruko sont tous, les dévoreurs sont tous, en fait, des enfants du centre qui ont dégénéré, quoi, qui sont tombés malades.
Mais ça en fait beaucoup, quand même.
Et ça en fait beaucoup. Et c'est là où je me dis quand même que, même si là, je disais que le titre me happait moins, je trouve que quand même, le fait d'avoir ce type de révélation, ça fait que tu sens que c'est un titre qui va appeler à la relecture parce que du coup, tu as envie de relire les premiers tomes et de revoir les premiers Hiruko qu'on a rencontrés et de te dire « Ah, mais alors du coup, celui-là,
est-ce que ça serait pas...
c'est un enfant du centre que je connais ?» Et du coup, tu peux essayer de faire des parallèles parce qu'en plus, ça, c'était Julie qui en avait beaucoup parlé. Il y a quand même beaucoup de symbolique dans le titre, notamment lié à la mythologie japonaise et tout. Et je pense que tout
ça... Et ça continue. Hein.
Et tout
continue
ça, que ce soit les pouvoirs
mesure.
Des gamins, l'apparence des Hiruko, tout ça, à mon avis, fait appel à cette symbolique-là. Donc nous, on n'a pas forcément les clés de tout ça, mais je pense que pour des lecteurs vraiment très avertis, ça peut être trop intéressant de relire pour essayer de... Voilà,
mais tu sais qu'à un moment, j'étais perdu parce que quand j'ai vu arriver des enfants de la quatrième génération, j'ai fait « Attends, quatrième génération ?» Je me suis gratté la tête. C'est vraiment genre « Attends, la troisième, c'était qui ? La deuxième ?» Je sais plus. Attendez, la quatrième, ils ont quel âge ? Ils sont de quelle génération ?
Car la vie trouve toujours un chemin, tu sais. C'est...
Ouais, mais tu sais, j'aurais vraiment besoin d'une énorme timeline. Il faudrait que je la fasse moi-même, mais une grosse timeline.
Bah ouais, et en plus, ce qui est super compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de noms, et en plus, quand les personnages sortent de l'orphelinat, ils décident de changer de nom pour être plus tranquille et tout. Donc, faut te rappeler des noms d'usage.
Et ils grandissent. Et ils changent de tête.
Il y en a, on apprend carrément que le cerveau qui est à l'intérieur, c'est pas eux. Donc, ça change aussi complètement l'idée que tu te fais de eux et leur nom aussi. Tu vois, donc
mais en tout cas, bah, l'objectif maintenant clair, c'est de détruire Mina.
Bah oui, je pense, parce qu'au final,
d'aller sur l'île, détruire Mina.
On se rend compte que c'est effectivement Mina qui est un peu à l'origine de tout, quoi. Donc, et qui est donc une IA qui a dégénéré. Et qui,
C'est tellement réel. T'imagines que. Attends, on est en 7 ans. 7 ans de publication. Le monde en 7 ans, il a changé. Hein. On est plus dans le monde qu'on était en 2019, 2018 même. Et j'ai vraiment le sentiment que le manga a évolué comme le monde. Que tu sais, l'auteur a fait évoluer son scénario, qu'il avait probablement une idée de base, mais qu'il l'a fait évoluer par rapport à notre monde. Le terme d'agent conversationnel. Est-ce qu'il existait vraiment en 2018 ce terme ?
Je pense quand même que ça fait un moment que ça existe, les chatbots et les trucs comme ça. Mais 2018, je sais pas.
Bon, après, ça peut être la trad française et tout. Mais le terme d'agent conversationnel, pour moi, c'est un mot d'aujourd'hui.
Oui, c'est les.
C'est pas un mot de 2018, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. C'est pas un mot de 2018.
Puis même Mina, c'est le nom d'une. Ça fait trop de noms d'IA, tu sais, de conversationnel.
Mais tellement.
Ah, je vais demander à Mina.
Non,
carrément, ça c'est assez fort.
Et bah, du coup, voilà, je trouve que le manga évolue aussi avec nous. Et avec une référence aussi un peu christique aussi que j'ai vu à un moment donné. Il y a les portes du paradis.
Oui.
Tu vois le passage ?
Ouais, où c'est. Mince, comment elle s'appelle ? Bon, je retrouverai pas le nom parce que de toute façon, il y en a
qui
trop.
Qui pousse la porte. Et en fait, ces portes, elles m'ont fait penser à deux trucs. Aux portes du paradis dans la ville de Florence, qui ont deux portes comme ça, qui ressemblent à deux énormes portes, qui ressemblent exactement à ce qu'il y a dans le manga, qui sont appelées les portes du paradis. Et puis à Fullmetal Alchemist, à la toute fin de Fullmetal Alchemist, sans vouloir spoiler, je ne spoil pas, il pousse une porte. C'est pas un spoil.
Bon, tu la vois depuis longtemps en plus, cette
en
porte.
En plus. Mais... Et je sais pas, je trouvais qu'il y avait un écho là-dedans.
Ouais, bah tu sais, c'est un peu ce truc. C'est, disons que la porte, c'est un élément symbolique très fort pour la révélation, justement, le fait d'accéder à la vérité, de voir un truc qui était caché, tu ouvres la porte, tu vois ce qu'il y a derrière, tu vois. Donc forcément, vu que le titre repose essentiellement sur ça, bah c'est pas surprenant qu'il y ait cette symbolique là.
Mais bon, j'ai hâte qu'ils aillent quand même sur, enfin que Maru et Kiruko aillent sur l'île, parce que du coup, on voit l'île avec la quatrième génération et certains des personnages, mais on la voit pas aujourd'hui, on la voit pas en 2026, 27,
oui,
28,
oui, c'est vrai.
20, je sais pas combien. Je sais plus combien ils sont, je suis perdu.
39, non, ils sont pas en 2039,
c'est ouais, ça.
Je crois qu'ils sont en 2039, mais moi je pense que il va y avoir un délire de effectivement détruire Mina. Et Mina, à mon avis, a gardé avec elle le jumeau de Maru pour la protéger, parce que c'est lui qui a peut-être le pouvoir d'empêcher Maru de
détruire
Mina.
Ouais, mais comme lui, il a le médicament, mais... je sais pas. Ah là, il y a tellement encore de possibilités. Le tome 13 sort au mois de septembre. Septembre 2026, rendez-vous pour le tome 13 de Journey Beyond Heaven de Masakatsu Ishiguro. On est totalement fan de ce manga à lire et à relire. Et si jamais vous avez fait une timeline dans votre coin, n'hésitez pas à nous la partager.
Nous la partager carrément.
On l'a pas encore fait, effectivement. Merci à tous d'avoir écouté cette émission sur nos mangas à suivre. J'espère que vous avez encore envie de suivre plus de mangas que vous ne suiviez précédemment. Et on se retrouve donc la semaine prochaine.
Carrément, c'était un plaisir.
Salut tout le monde, merci.
Salut.